5 siècles en quelques minutes. Voilà, donc c'est vrai qu'il nous a été rappelé l'importance et le bénéfice d'annoncer la parole de génération en génération. Nous venons de voir les enfants partir avec leurs moniteurs, alors je vous propose de prier pour eux et pour nous aussi qui allons encore ouvrir la parole, continuer d'ouvrir la parole et être à son écoute. Prions ensemble. Notre Père, merci parce que nous sommes au bénéfice de tous ceux qui ont gardé l'Évangile dans leur cœur, mais pas seulement gardé pour eux, de ceux qui ont proclamé l'Évangile. Merci parce que nous sommes au bénéfice de tous ceux qui nous ont précédés, nous ont donné, nous ont laissé, et nous voulons encore laisser cet évangile qui ne nous appartient pas mais que tu nous offres, et nous voulons continuer de le proclamer. Nous prions pour les futures générations, nous prions pour les enfants qui vont être enseignés maintenant, que tu puisses donner la sagesse aux moniteurs et un cœur ouvert aux enfants. Donne aussi à nous, maintenant, d'être encore ouverts à ta parole. Nous sommes réunis avant tout pour t'adorer, être à ton écoute, te glorifier. Et nous voulons laisser la place à ton esprit pour que tu puisses atteindre notre intelligence, notre cœur et nos actions, notre quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la journée du patrimoine et à cette occasion on a ressorti l'expo sur la réforme. Alors on voit vraiment sur le devant les slogans de la réforme. Solo Christ, le salut par le Christ seul. Sola Scriptura, l'écriture seule, la seule autorité. Par la grâce seule, sola gratia, sola fide, par la foi seule, et enfin, soli deo gloria, à Dieu seul, la gloire. Et le texte de ce matin, comme tous les textes bibliques, pointe dans ces sens-là. C'est à partir de la Bible que l'on a tiré tous ces slogans. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'accent va être surtout sur sola gratia, la grâce seule, mais aussi, voilà, Christ seul, et à Dieu seul, la gloire. Le texte va parler de la compassion. Alors, je vais mettre l'affichage. La compassion de Jésus, la compassion de Dieu qui nous atteint. Est-ce que vous avez déjà eu cette compassion? En tout cas, est-ce que vous vous êtes déjà senti mal pour quelqu'un ou eu cette compassion pour une personne en difficulté? Difficulté financière, difficulté affective, physique ou d'autres difficultés? Je pense qu'autour de nous, dans notre pays et dans le monde, il ne manque pas de personnes éprouvées, des gens qui vivent dans la pauvreté, des gens malades, des gens attristés par des situations. Et une question que l'on peut se poser, en tout cas que l'on se pose et que l'on nous pose, que fait Dieu face à la misère? Que fait Dieu face à la misère? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne règle-t-il pas le problème des guerres ou de la famine dans le monde, par exemple? Le sujet est très vaste, je n'ai pas toute la réponse. Je vous propose juste ce matin de lire un texte qui peut nous apporter un début d'éclairage. C'est un passage assez court des évangiles, un texte qui parle de la compassion de Jésus. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Luc 7, 11 à 17. Ce passage suit le passage que nous avons lu il y a quelques semaines, où Jésus admire la foi d'un officier romain. Cet officier romain avait un serviteur malade. Jésus voit la foi de cet officier et puis il guérit son serviteur qui était mourant. Voici donc la suite. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on apportait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Dans ce passage, deux cortèges se rencontrent. D'un côté, Jésus et ses disciples, et de l'autre, la veuve avec le cercueil de son fils. Que se passe-t-il lorsque les deux cortèges se rencontrent ? Avant d'évoquer la rencontre en elle-même, le texte insiste d'abord sur le malheur de la veuve. La phrase au verset 12 est répétitive, redondante. Verset 12, je le relis. « Voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. » L'auteur aurait pu juste écrire « On portait en terre un mort, il était fils unique d'une veuve. » Mais au lieu de cela, l'auteur précise qu'il est le fils unique de sa mère qui était veuve. Un accent est mis sur la situation misérable de cette femme. Non seulement c'est une épouse qui a perdu son mari, mais maintenant elle a aussi perdu son fils. C'est une mère qui a perdu son fils, son seul fils. À cette situation éprouvante s'ajoute la pauvreté. Cette femme n'avait maintenant plus aucun moyen de subsistance. Dans cette société, il n'y avait pas d'assurance, pas de RSA, pas d'APL, ni de sécurité sociale. Les femmes seules avaient un statut très précaire, car c'était surtout les hommes qui se chargeaient de pourvoir matériellement aux besoins de la famille. Cette femme allait certainement se retrouver à la rue. Maintenant, Jésus la rencontre. En la rencontrant, en la voyant, Jésus fut rempli de compassion pour elle. Ce verbe « être rempli de compassion » est très fort en grec. On pourrait aussi traduire « il fut saisi par ses entrailles ». Quand vous regardez dans le dictionnaire de traduction grec-français, grec ancien français, il y a cette expression « être saisi par ses entrailles ». Le texte ne dit pas que Jésus eut compassion d'elle, c'est plus fort que cela, c'est la compassion qui s'est imposée à Jésus. Verset 13, en la voyant, il fut rempli de compassion pour elle, c'était plus fort que lui. Certains spécialistes pensent que si Jésus était si ému, c'est parce qu'il aurait perdu son père vers l'âge de 12 ans et il sait ce que représente la détresse d'une veuve. En effet, après l'épisode où Jésus a enseigné dans le temple à l'âge de 12 ans, il n'est plus jamais mention de son père Joseph, alors que les évangiles nous parlent encore de Marie, sa mère. Donc le décès de son père est une hypothèse parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, de manière plus générale, Dieu a souvent manifesté son attention envers les personnes les plus démunies. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle sans cesse à son peuple de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de l'immigré. Par exemple, Deutéronome 10, verset 18, « Il fait droit à l'orphelin et à la veuve, il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Psaume 82, verset 3, « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. » Ésaïe 1, verset 17, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et même dans le Nouveau Testament, Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. J'ai lu juste quelques extraits, mais il y en a encore beaucoup d'autres. De tout temps, ces catégories de personnes existent dans la société et se trouvent dans des situations précaires. Revenons à notre texte. Jésus est extrêmement bouleversé en voyant la détresse de cette femme. Cette compassion, sa compassion, le pousse à agir en sa faveur. Il opère un miracle, une résurrection. Ce qui est marquant quand on lit le texte, à la suite du passage précédent, c'est de voir qu'ici, Jésus agit non pas en vertu de la foi de quelqu'un, mais il agit parce qu'il a compassion. Dans le passage précédent, un officier romain envoie des gens demander à Jésus de guérir son serviteur. Jésus voit la foi de cet officier et il guérit le serviteur. La foi est explicitement en lien, mise en lien avec la guérison. Dans d'autres textes des évangiles, par exemple dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, un aveugle demande la guérison. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. » D'après ce genre de texte, on pourrait en déduire que Jésus guérit les maladies si on lui demande avec foi. Mais cette manière de voir les choses me dérange un peu. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de guérison? Cela voudrait-il dire que la personne qui demande n'a pas assez de foi? Et s'il y a guérison, pourrait-on se glorifier d'avoir eu assez de foi? La foi n'est-elle pas aussi une grâce, un cadeau? Il y a à côté la grâce seule, la foi seule. La foi n'est-elle pas une grâce? Je suis convaincu que Dieu a le pouvoir de guérir les malades et il est légitime de prier pour eux. Mais lui seul a le dernier mot. Ne cherchons pas à tout prix des règles, comme si nous pouvions obliger Dieu à agir en notre faveur si nous avons appliqué la bonne méthode et avec assez de foi. Dans notre texte, Jésus ne reçoit aucune demande. Il voit la femme, il est bouleversé, il est rempli de compassion et il agit en sa faveur. Rien n'est dit sur la foi de cette femme. Ce miracle est une pure grâce qui découle non pas d'une quelconque foi, mais de la compassion de Jésus. Ce passage met l'accent sur la compassion de Jésus et la grâce qui en découle. Si Dieu fait grâce, ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit pour le mériter, c'est parce qu'il a compassion de nous. L'apôtre Paul le précise clairement dans sa lettre aux Éphésiens, d'ailleurs c'est rappelé à plusieurs reprises dans la Bible, mais on peut lire dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est Dieu qui fait grâce, il nous a aimés le premier, il a compassion de nous. Ce texte sur la résurrection du Fils peut nous questionner de manière plus large. Si Jésus a le pouvoir de soulager nos détresses, en guérissant des maladies, en ressuscitant des êtres chers, pourquoi ne le fait-il pas plus souvent? Je vais vous répondre franchement, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que lui seul est le maître de ses décisions. Et rappelons-nous que les maladies et la mort corporelle ne sont que des symptômes d'un mal bien plus grave. La séparation avec Dieu. La plus grande détresse de ce monde, c'est d'être éloigné de Dieu, d'être loin de Dieu. La Bible nous dit que Dieu traite ce problème en profondeur. Il ne fait pas que soigner les symptômes, il s'attaque à l'origine du mal. Imaginez que la toiture de votre maison soit défaillante et laisse passer l'eau de la pluie. Imaginez que pour régler ce problème, vous faites appel à quelqu'un et il vous dit que juste, il faut qu'après chaque pluie, il faut éponger les flaques dans votre maison. Est-ce vraiment une bonne solution ? Le vrai problème, n'est-ce pas le trou dans la toiture ? Eh bien, le vrai problème de l'humanité, c'est qu'il s'est coupé de sa relation avec Dieu, il s'est éloigné de lui. Et Dieu a tout fait pour réconcilier l'humanité avec lui. Pour cela, il fallait un médiateur, un intermédiaire entre l'humanité et Dieu, un homme qui puisse représenter l'humanité devant Dieu et qui soit aussi agréé par Dieu. Seul Jésus correspond à ces caractéristiques. Seul Jésus est assez saint pour se tenir dans la présence de Dieu en notre nom. Grâce à lui, nous pouvons être réconciliés avec lui. L'humanité reste cependant fragile face à la maladie et à la mort, car nous sommes soumis à la fragilité de ce monde. Mais nous savons et nous avons cette espérance que la mort n'a pas le dernier mot, car Dieu nous promet une nouvelle terre, des nouveaux cieux, une nouvelle vie pour tous ceux qui ont accepté ce cadeau de Dieu. Alors en attendant, il est vrai que nous vivons dans un monde rempli de détresse, mais nous ne pouvons pas accuser Dieu de ne rien faire. Cette réconciliation dont je viens de vous parler, Jésus en a payé le prix. Il a été rejeté par le monde et crucifié comme un criminel. Dieu se préoccupe de l'humanité et il l'a payé cher. De plus, il nous appelle à prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Il nous appelle à avoir la même compassion que lui. Finalement, nous pourrions retourner la question à ceux qui vivent dans les pays riches, et nous en faisons partie. Nous qui avons la possibilité de soulager des pauvres, que faisons-nous avec les moyens que Dieu nous donne ? Une fois, une personne m'a demandé pourquoi Dieu ne fait rien pour les pauvres qui souffrent de la famine. Et au cours de la conversation, cette personne en est venue à me parler de Mère Teresa, comme quoi elle avait beaucoup d'admiration pour cette femme, ce qu'elle a fait en faveur des pauvres. Et ce que je trouve paradoxal, c'est que les gens peuvent avoir beaucoup d'admiration pour ceux qui aident les autres, tout en restant assez passifs face à la pauvreté. Dans les évangiles, Jésus se préoccupe sans cesse des plus faibles et même des pécheurs. Il se préoccupe de chacun de nous. Soyons assurés que Dieu est rempli de compassion pour nous et son amour ne doit pas nous laisser passifs. Pour conclure, regardons la fin du texte et intéressons-nous à la réaction de la foule au verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu. Pourquoi la crainte ? Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu. Mettons-nous un instant à leur place. Imaginez-vous à un enterrement, vous êtes présent aux côtés de la famille, vous vous joignez à leur peine. Et tout à coup, le défunt ouvre les yeux, s'assoit et se met à parler. Alors à l'époque, les cercueils n'étaient pas fermés. C'est pour cela que le mort a pu se mettre assis assez rapidement. Si nous étions dans la foule, je pense qu'avant d'être dans la joie, nous aurions bien peur. Mais après la crainte, la foule rend gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Nous ne savons pas qui de la foule a vraiment suivi Jésus par la suite, mais nous pouvons nous poser la question pour nous. Et nous, Considérons-nous Jésus comme un grand prophète, comme étant la manifestation de Dieu parmi nous? Ce texte nous enseigne deux choses en particulier. Premièrement, il nous invite à voir en Jésus l'envoyé de Dieu, rempli de compassion pour l'humanité. Il peut nous arriver de douter de cela. Personnellement, la question effleure parfois mon esprit. Lorsque nous voyons tant de souffrances dans ce monde, tant d'injustices, tant de victimes, lorsque nous vivons nous-mêmes une détresse et que Dieu nous semble lointain, le doute peut effleurer notre esprit. Ce texte nous invite à ne pas douter de l'amour de Dieu. Il est venu dans ce monde, il a souffert pour nous, afin de nous offrir la vie dans l'éternité. Deuxièmement, ce texte nous invite à ne pas rester indifférents face à ce Jésus qui a fait preuve de compassion. Mettons notre foi en lui, comptons sur lui et ayons la même compassion que lui. Il nous appelle à être ses représentants sur terre, à avoir compassion de la veuve, de l'orphelin, de la pauvre, du pauvre et de l'étranger. Il s'agit d'une compassion qui ne se limite pas seulement à offrir des choses matérielles, mais qui témoigne aussi de la bonté de Dieu et de sa grâce. Lui seul nous sort de la plus grande misère, qui est la séparation avec Dieu. Que la compassion du Christ touche notre âme, qu'elle nous transforme, qu'il nous rende aussi bienveillants envers le prochain qui se trouve près de nous. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Parce que tout nous vient de toi en premier. Même la foi, tu nous dis que c'est un don. C'est un cadeau que tu nous fais de pouvoir croire en toi, de pouvoir nous approcher de toi. Et si nous pouvons nous approcher de toi, c'est bien parce que tu te rends accessible à nous, que tu as tout fait pour nous tendre la main, pour tendre la main à l'humanité dans la personne de Jésus. Merci parce que tu ne restes pas indifférent au malheur de ce monde, mais tu nous aimes et tu nous appelles à être tes représentants sur terre en ayant cette même compassion que toi. Que l'Église ne reste pas indifférent au malheur de ce monde, au malheur qui nous entoure, mais que nous puissions saisir les occasions et trouver le moyen d'être témoin de ton amour et d'être aussi à l'œuvre pour agir concrètement dans ce monde qui souffre. Nous te prions pour cet après-midi aussi, que cette grâce puisse transparaître dans l'histoire de l'Église et dans la vie de cette communauté. Amen. Et je vous propose de chanter.